Voilà.
Ah ouais, bah écoute, c'est du condrus. Hein.
Donc,
Ah, et ben non. Alors, je vais te dire. C'est un mélange de condrus et de mastocarpus qui pousse, les deux poussent au même endroit.
Mm-hmm.
Mais ils se ressemblent beaucoup. Mais tu vois le mastocarpus, les petits gris-gris là.
D'accord.
Je peux t'en montrer là.
Il y a des petites ponctuations ouais, sur la surface.
Ouais.
Donc elle a trouvé alors du barentoir en breton. Donc elle m'a traduit barentoir qui veut dire goémon de feu. Voilà.
Attends, je vais noter, c'est joli. Barentoir.
Et okay. En fait, il y en avait encore dans son grenier, parce que là je suis en train de regarder. Alors là, elle m'avait donné en fait les périodes d'étalement, mm-hmm. De l'engrais, qui est très très ciblé. Hein. Uniquement au mois de novembre, qui permet une décomposition rapide des algues parce qu'il pleut souvent.
Aussi, voilà. Moi j'en mets dans mon jardin, puis j'en donne beaucoup aussi.
Vous, je ne sais pas si vous avez connu ça, le fait de faire sécher des algues pour l'utiliser pour faire du feu.
Oui.
Vous avez connu ça aussi.
Oui, j'avais oublié de poser la question. Quand j'ai changé la toiture, ici, on a vidé le grenier, ben, on avait trouvé du vieux foin, des algues séchées comme ça. Ben oui, il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas d'électricité.
Du coup, il y avait un stock en fait, d'algues séchées
dans le grenier.
D'accord.
Dans le grenier.
Et vous ne vous rappelez pas quel type d'algues c'était? À quoi elle ressemblait
cette si, je vois, c'est là. En fait, du coup, il y a des
D'accord.
boules sur le. Mais ils ont ça un nom sans doute. Mais...
Alors, c'est Fucus vesiculosus, je crois.
C'était du goémon.
Je marque. Mais c'est vrai que ça aurait été.
Ça, c'était du goémon.
Je reviendrai, on ira sur la plage et je vais vous montrer les algues. Et vous allez me donner pour vous, qu'est-ce que c'est? Donc, vous m'avez dit, c'est du.
Beranta.
Alors là.
Du Beranta, c'est du goémon de feu.
Tiens. Voilà.
Beran, c'est goémon.
Ouais.
Et teint, c'est feu.
Et donc, c'était le même, donc ce qu'il y avait dans votre grenier. Et du coup, quand dans l'ancien temps, donc à un moment, vous avez mangé beaucoup de coquillages, et vous les jetiez où?
Dans la nature.
Dans la nature.
Dans la nature. Il n'y avait pas de poubelle ramassée.
Mais dans la nature, c'était peut-être pas devant votre fenêtre, si?
Bah, comme ça, par exemple, ça aurait été la plaine, là, allez, hop.
Carrément là.
Oui.
Là, on est sur... D'accord.
Carrément.
Elle a sorti et dans les endroits où vous marchiez aussi enfin,
Ben oui, bien sûr. Et, on était pas plus. Et puis, alors, il y avait des vieilles masures quand j'étais dedans.
Ah oui, d'accord, dans les maisons.
Il y avait beaucoup des gens qui avaient quitté l'île et puis leur maison était devenue.
Elle était abandonnée.
Les poubelles, quoi.
Ouais, d'accord.
Ouais.
Alors, parce que moi,
j'étais salade.
Moi, je travaille sur les poubelles, donc peut-être qu'un jour,
Là,
mon rêve, c'est de pouvoir. Voilà, vous me dites, là, j'ai mangé tout ça ici, et moi, j'étudie votre poubelle, quoi.
En
fait, c'est mon travail, en fait.
Oui,
donc,
bien sûr, mais bon.
Mais bon, voilà. Après, ça serait intéressant.
Ça.
Bah oui.
On jetait tout dehors.
Non, puis c'est c'est des choses qui se dégradent aussi et qui participent, au sol. C'est pas. Il n'y avait pas de plastique comme il y a maintenant,
donc c'était pas
un problème.
Certains.
Il y a une habitante qui me parlait aussi de certains éléments qui étaient rejetés par la mer et qui étaient utilisés dans les sépultures pour matérialiser les tombes. Vous n'avez pas, vous, ramassé des choses sur le bord de mer pour remettre sur les tombes, pour les décorer ou
Non, à part des pierres. Comme
à
ça.
Part des pierres, ouais. Donc des galets de côte.
Ah oui, les galets aussi. Les galets aussi, oui.
Alors, vous m'avez dit que ça, c'est des pierres et les galets. Alors, c'est quoi la différence entre galets et
pierres? D'accord, là, les pierres qu'on met autour des sépultures, là.
D'accord.
Que j'avais été chercher aussi pour tenir la
toile.
Donc
ça, c'est plus du granit, ouais.
Et puis, des galets pour mettre sur les tombes, c'est vrai.
Jeannette, c'est vraiment une âme de l'île. C'est une des dernières personnes qui connaît parfaitement, qui a toujours vécu ici, les bons moments et les mauvais moments.
Et qui a vraiment vécu la vie des anciens, les coutumes, les habitudes.
Le but, c'est que tous ces témoignages, ça reste pour plus tard, pour les générations d'après, en fait. C'est aussi ça, notre objectif. Peut-être qu'un jour, on va interdire la pêche à pied, on ne pourra plus y aller.
C'est
pas la même chose, un touriste qui vient une journée faire de la pêche, et vous qui avez l'habitude, et qui allez respecter en fait, la côte. Et s'il y a une surexploitation aussi à certains endroits, c'est juste que les gens ne savent pas, en fait, n'ont pas derrière rien que comment la notion de ramasser que ce dont on a besoin. Rien que ça, c'est...
Et puis, Edic, bah, je pense que c'est notre île et on n'a pas envie qu'elle s'abîme, on n'a pas envie qu'elle se détériore, donc on essaye de la protéger.
reviens sur... Tu sais quoi, l'eau est sale. Tu reviens sur ton trou, parce que des fois, on n'en voit pas, et puis...
Ouais, ouais. Je fais ça.
Je vais prendre mon panier.
Monique Massé, Daniel Favre
et Daniel Toby.
Ça. Bah, des frères. Du coup, la crevette, comment vous la pêchez ?
À l'épuisette.
À l'épuisette ?
Ah oui.
Dans les trous ou dans les algues ?
Autour. Autour des rochers, dans les algues. Et moi, j'aime bien dans les ficus.
D'accord. Elles sont plus grosses, plus goûtées ou... Elles sont plus abondantes ?
Je trouve. Et puis les algues restent moins dans l'avenot.
D'accord, ça c'est un très très bon, en effet.
Après, on a moins à nettoyer. Oui, non, c'est...
Et alors, du coup, c'est la même chose. Peut-être qu'il y a des trous à crevettes.
Ah bah bien sûr qu'il y a des trous à crevettes. Mais ce matin, j'ai même eu presque peur. Mais on était arrivé au laminaire. Hein, et il y avait, c'était une petite coulée, il y avait dans les rochers un bruit, un gros bruit, et comme un homard qui faisait.
Et alors, on ne sait pas ce que c'était du coup.
Je ne me suis pas approchée, j'ai eu un petit peu peur. Si, mais ça faisait un bruit,
oui, aussi,
un bruit,
fait, ouais.
Un bruit vraiment de...
Parce que c'était un super homard, quoi.
Oui, alors... souvent dans les grottes, il y a homard et congre. Et je n'avais pas trop envie de me trouver en face de l'homard encore, mais un congre.
Et du coup, vous m'avez décrit un peu l'environnement de la crevette, là, avec les fucus, c'est ça ? Vous voyez une mare, est-ce que vous êtes sûr d'avoir des crevettes juste parce que vous avez l'habitude d'aller là ? Ou parce que vous dites, tiens, il y a un environnement propice ?
Non, j'ai pas toujours l'habitude, mais oui, il y a un environnement propice. Il faut que ça soit profond, qu'on puisse glisser l'avenot un peu sous la roche, que ça fasse un peu une petite grotte.
D'accord.
Donc un beau trou, pas trop, avec quand même de l'eau, et on glisse tout autour, et si on peut rentrer, c'est très bien. Et c'est vrai que... Sur la marée montante, quand il fait du beau temps comme ça, elle remonte et on les voit.
Et il y a une saison pour la pêche à la crevette ?
Septembre. Daniel, septembre, la crevette. Oui.
J'en ai appris un peu plus grâce du coup, à la science participative sur la diversité des ressources aussi qui sont accessibles. Donc là, j'ai eu un éventail un peu plus large et aussi une description à échelle humaine des variabilités, en fait, de la variation des espèces accessibles. Et ça fait peur dans l'interprétation d'un site archéologique. Parce que là, souvent, on a une accumulation successive de coquilles, on ne sait pas vraiment combien de temps ça a duré. Et là, vous avez des gens qui, à une échelle humaine, vous disent « Ah bah oui, mais là, il y avait des moules, maintenant, il n'y en a plus. Il y a des espèces, en fait, qui disparaissent et qui reviennent comme ça, constamment. » Et après, le côté dégustatif, il est très très intéressant à interroger parce qu'on voit que certains anciens ont mangé certains coquillages, ils les mangent moins, pas forcément parce que c'est moins bon. Les jeunes n'en mangent pas parce que ça, c'est pas bon, mais ils n'en ont jamais mangé. Donc ce côté-là, moi, je le trouve très très intéressant. Le fait d'avoir interrogé les anciens montre une vraie rupture aussi dans l'exploitation des ressources d'Estran et donc une nécessité d'enregistrer absolument ce patrimoine immatériel. Là, c'est une urgence en fait du projet. Parce qu'en fait, dans 20 ans, je pense qu'on n'aura plus les mêmes témoignages, parce que beaucoup de personnes qui ont donc vécu avant-guerre vont disparaître, et là, leurs témoignages sont très précieux. Je pense que là, c'est vraiment... Moi, je me sens presque une obligation de le faire, parce qu'en fait, on est les derniers à pouvoir enregistrer en fait, des quotidiens de personnes qui sont décrits nulle part, en fait. On a beau nous dire qu'il y a des archives, je suis désolée... Même Colbert, Christa, si tu nous entends, on voit très bien qu'il y a plein d'activités des petits gens de la côte, en fait, qui sont nulle part dans les archives. Moi, je trouve que c'est un cri d'alarme qui va ressortir de ce projet-là. Hein. parce que même si on nous parle de la biodiversité, qu'il faut faire attention aux espèces, les anciens, en fait, on voit très bien dans les témoignages qu'ils respectent leurs environnements. Et quand ils ont mangé, enfin, il y a certaines espèces qu'ils ont peut-être mangé à des moments en grande quantité parce qu'ils en avaient besoin. Et le côté non-gaspillage, ils l'ont déjà en fait dans la tête. Donc je sais pas, il faut trouver un moyen de faire ressortir ça du projet, quoi. En fait, j'ai énormément d'émotions à interroger quelqu'un quand tu sais que c'est la dernière personne qui peut te décrire ça. Déjà, Jeannette, franchement, pour moi, c'est un cadeau. Hein. Enfin, c'est une super réussite du projet. Réussir à aller à la côte avec elle, pouvoir enregistrer la description qu'elle va vous faire de l'activité, enfin, c'est génial. Par rapport au départ, en fait, je trouve quand même qu'on a pu approcher pas mal de gens, et des gens très, très intéressants. On voit aussi que tous n'ont pas la même... En fait, ils vont vous répondre en fonction aussi de leur sensibilité à la nature. Donc on voit très bien aussi cette diversité. Et il y a autant de profils que de personnes interrogées. On ne va pas pouvoir faire des... Je pense que ça va être très difficile de faire des généralités. À part si une des généralités, c'est que les hommes qui ont pris très tôt un bateau, du coup, ont abandonné la pêche à pied rapidement. Ils ne sont pas forcément retournés. Les personnes qui ne sont pas de l'île, en fait, on les repère assez facilement avec les témoignages et par rapport aux espèces qu'elles connaissent. Il y a quand même un beau bilan, c'est que j'avais déjà un peu senti ça, c'est que tout ce qui se mange t'appelle, le reste ne s'appelle pas. Après, la difficulté, ça va être de croiser les gens au bon endroit. Donc en fait, pour les hommes, beaucoup en fait ont le rituel de se regrouper autour d'un verre. Donc j'ai pu en fait en rencontrer plus facilement. Pour les femmes, en fait, elles ont plus d'activités en fait qui leur permettent de se regrouper. Si j'avais la possibilité de revenir plus régulièrement, je ferais bien le mois Cosette des femmes du village. Voilà, c'est des idées. Là, je vais vous donner l'idée qui vient de me venir là juste à l'instant. Parce que je pense que voilà, ça, c'est un groupe de. Est-ce que vous pouvez amener des vieilles photos, on discute. Il y a sans doute, sur un interview, vous pouvez avoir même 90% de déchets, mais alors les 10% sont très précieux.
Alors, pas moi, mon mari est d'origine d'ici.
D'accord.
Donc on vient tout l'été.
D'accord.
Et puis ben là, on est revenu pour faire le point dans la maison.
D'accord.
Pour savoir ce qu'il faut acheter, parce qu'ici c'est trop cher la vie.
Oui.
On passe un container souvent au mois de mars.
D'accord.
De conserve et tout. Puis arrivé au mois de juin, on passe la viande.
D'accord.
Et là, on est venu faire le point, faire le ménage.
Ok.
Et tout ranger.
Il est caché où, votre mari? Il est là-bas?
Non. Non, puis c'est pas ici qu'il va à la pêche aux crevettes. Chacun se garde ses petits coins.
Bah oui, je sais bien.
Ouais. Voilà.
Et là, il est à la pêche à la crevette en ce moment?
Alors là, il est en train de sortir son corps mort.
D'accord.
Parce que le bateau, nous, on le ramène au Croisetis en hivernage.
D'accord.
Et là, il va sortir le corps mort pour mettre juste une petite boule au fond.
D'accord.
Pour pas...
Okay. Parce qu'en fait, j'essaye d'interroger les natifs en fait, de l'île, parce qu'il y a des choses qu'ils ont vécues quand ils étaient petits, même des activités qu'ils ont faites à l'école, qui sont en lien avec les coquillages. Donc j'essaye de les interroger. Et puis, je ne sais pas si votre mari, par exemple, a transmis sa technique de pêche à ses enfants, les endroits où il va à la pêche.
Alors, mon mari, pas trop, parce que c'est pas un pêcheur, lui.
C'est pas un pêcheur.
Même en bateau, il c'est un plongeur.
D'accord.
Donc lui, il aime bien regarder, il rouspète après les gens qui fouillent.
D'accord.
À la rénovation de la maison, dans le torchis, le maçon a trouvé un mât de bateau. Et au-dessus des fenêtres aussi, il a trouvé des choses de bateau aussi. Hein. Je sais pas.
Mais c'est quelle maison en fait?
C'est au niveau de la crêperie. Oui, il y a la crêperie là.
Au
et puis en descendant, il y a deux maisons là.
Il faudrait presque faire le tour de l'île avec les gens pour que vous montriez quelle maison. de quelle maison il s'agit. Parce qu'en fait, on travaille là sur... le but, c'est de... Voilà, on part de l'archéologie, du très ancien, et on remonte le temps petit à petit. Donc il y a un historien qui travaille après sur les archives, justement, pour voir si les gens qui vivaient de la côte sont décrits ou pas. Et on a aussi, en fait, des... Donc le projet, c'est sur tout ce qu'il y a sur l'estran et tout ce qui est rejeté, en fait, à la mer. Donc, en fait, tout ce qui est aussi épave, c'est pris en compte. Et il y a une étudiante, en fait, elle fait sa thèse sur la récupération des matériaux de bateau dans la construction des maisons. C'est pour ça qu'en fait, ce que vous me dites est très, très intéressant. On va continuer notre tour, on va aller voir vers la balise bleue. J'aimerais bien de croiser des gens qui pêchent le pissou.
Oui, bah c'est plus par là-bas en plus. Des fois, quand je pêche pas, je pêche quand même des petites. Et après, pour me motiver, je les mets deux par deux. Si elles allaient se reproduire plus loin.
Alors, c'est possible que ça marche, hein?
Je sais pas.
Si, parce que je pense que c'est une reproduction dans l'eau. Donc, ouais, bon. Je pense que ça peut être.
Voilà.
Bon, bah, à très bientôt. Il faut voir la laisse de mer comme finalement une partie du frigo qui va s'ouvrir tous les jours. La laisse de mer, ça va être tout ce qui est rejeté quotidiennement par les marées. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que les populations insulaires attendent ces laisses de mer, surtout quand il y a des grands coefficients de marée, parce qu'elles vont vous amener des éléments comme ça peut être des arbres, mais ça peut être également des mammifères qui vont s'échouer. Et même les algues, ça a pu constituer aussi une ressource très importante pour ces populations. Par exemple, les algues qui vont être échouées ont pu être utilisées comme combustif. C'est une principale source de chaleur pour ces populations, à la fois pour se chauffer et pour réchauffer leurs aliments. Parmi les ressources minérales, on peut aussi évoquer le silex. Et finalement, le silex, bah, c'est l'outil de base en fait du chasseur-cueilleur qui va pouvoir l'aider à chasser en fait des grands mammifères. Ça va être aussi utilisé pour racler les peaux de bêtes, pour travailler aussi des matières végétales. Hein. On peut avoir aussi de la vannerie qui va être utilisée. Et pour assouplir les fibres, on va utiliser le silex. Donc, et le silex, c'est ce qui va être rejeté dans les laisses de mer tous les jours. Et après, je me suis dit, mais Gaëlle Dieulefay qui travaille sur, et donc sa doctorante qui travaille sur Pauline Dupont sur les naufrages, sur la réutilisation des produits de naufrage sur les naufrages. Je lui ai dit, mais est-ce que tu pourrais nous donner un calendrier des naufrages? En fait, la question, c'était, est-ce que en fait, finalement, les naufrages en fait, sont plus réguliers au moment où on a les choix des algues? Donc voilà. Donc elle nous a fait toute une présentation qui était très très intéressante sur les raisons des naufrages. Donc on peut avoir des conflits, mais on peut aussi avoir des causes de mauvais temps. Donc là, par exemple, Gaëlle, elle m'a dit, mais c'est génial, j'avais jamais pensé à cette question. Alors moi, j'avais pensé à cette question pour sa doctorante, et finalement, la doctorante, elle n'était pas disponible pour la journée, donc c'est Gaëlle qui a fait la présentation. Et en fait, voilà, ça lui a fait un sujet de recherche auquel elle n'avait pas forcément pensé. Donc voilà, c'est des petits grains de sable qui rentrent dans votre quotidien et qui changent en fait certains sujets de recherche. Ça, c'était beau, ça. C'est génial parce que vous avez quelqu'un qui travaille à la base sur les navires. Donc Gaëlle fait travaille sur les archives et puis elle va plonger pour retrouver certains navires, essayer de retrouver un nom parfois à certaines épaves. Et là, de travailler sur un calendrier des naufrages sur une séquence de temps très très longue. Et il y a quand même des belles réussites parce que quand vous présentez le projet à des archéologues, parfois d'autres régions, ils envient quand même les résultats du projet. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui parle aux archéologues, quoi. Et cette démarche, en fait, elle est l'originalité de la démarche, je pense qu'elle n'est pas jalousée, mais on voit très bien que les collègues, ils ont les yeux qui brillent. Ils se disent, bah, c'est génial comme concept. Parce qu'en fait, en archéologie, vous parlez à des vestiges qui ne parlent pas. Enfin, voilà, vous faites parler des vestiges inertes. Et du coup... ça ouvre en fait des champs d'hypothèses énormes, quoi. Donc là, ils vont à la supérette, allez, ils vont faire les courses. Vous avez fait l'école ici quand vous étiez petite. Et il y avait encore la fête Dieu ou pas quand vous étiez là? Du coup, la religieuse qui s'occupait de l'école, tous les ans, donc pendant cette procession,
pour
juste avant,
Dieu,
ils allaient ramasser des coquillages
sur
la plage.
On allait ramasser des coquillages.
Vous avez aussi fait ça?
Ouais, du corail. Il y en a encore sur les tombes.
C'est ce que je regardais justement, parce qu'en fait, je pense qu'il
y en a très peu maintenant, mais
il est parti,
on ramassait beaucoup de corail. Bah, c'était là, sur le, après le torrent d'église, là. Après le canot de sauvetage, les plages, il y a des criques.
D'accord.
Et là, il y avait beaucoup de corail. Et on ramassait ça, ouais. Et on faisait, avec le marc de café aussi.
Oui.
On faisait des dessins sur les routes et les fleurs.
C'était les ressources de l'Estran en Bretagne Sud, quatrième épisode. Avec Catherine Dupont, archéologue, directrice de recherche au CNRS et co-responsable du projet Terre des Îles. Nathalie Bourgougnon, professeure en biotechnologie et biochimie marine. Les pêcheuses de crevettes Monique et les deux Daniel, Sylvie, une habitante saisonnière d'Édic, René, la pêcheuse à pied, et Jeannette Blanchet, la doyenne de l'île d'Édic. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast avec le soutien de la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne.